France Culture.
Le journal est présenté par Olivier Denray. Bonjour Olivier.
Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Coïncidence de calendrier, 24 heures après l'ouverture d'une enquête par le parquet européen, le Rassemblement national a vu son siège parisien perquisitionné. Aujourd'hui, il s'agit là d'une autre affaire qui concerne le financement de plusieurs campagnes électorales. Maintenir la pression sur le monde politique français avec l'espoir d'un veto pour bloquer l'accord du Mercosur. Voilà ce qui a poussé des représentants du monde agricole à manifester tout à l'heure devant l'ambassade du Brésil à Paris. Les enseignants et les personnels qui travaillent avec eux sont de plus en plus nombreux à saisir la médiatrice de l'éducation nationale. Ils représentent un quart des dossiers en 2024. En Espagne, les scandales à répétition qui touchent son entourage ne semblent pas affecter le Premier ministre socialiste. Pedro Sanchez n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Bravache, il propose même un plan de lutte contre la corruption. En prison, depuis des années en Turquie, le fondateur du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, vient de publier une vidéo dans laquelle il confirme le désarmement de son mouvement. Une parole rare et historique, nous l'entendrons dans ce journal. Enfin, l'intelligence artificielle qui déraille après une mise à jour. Grok, la création d'Elon Musk, vient de faire l'éloge d'Adolf Hitler, fortement critiqué. Cet outil ne fonctionne plus pour l'instant. Jordan Bardella dénonce un acharnement au lendemain de l'ouverture d'une enquête par le parquet européen contre son parti et ses alliés d'extrême droite, soupçonnés par Bruxelles d'irrégularités financières. Nous en parlions ici, hier soir, ici même. Le siège du Rassemblement national a été perquisitionné ce matin à Paris par une vingtaine de policiers de la brigade financière et par deux juges d'instruction. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Olivier.
Il s'agit ici d'une enquête sur un possible financement illicite de plusieurs campagnes électorales. Des perquisitions ont d'ailleurs eu lieu également dans des sociétés proches du RN et au domicile de leurs dirigeants.
Oui, ces perquisitions ont été menées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis l'année dernière. Elles concernent le financement de trois campagnes, la présidentielle et les législatives de 2022, ainsi que les européennes de 2024. Et elles portent principalement sur des prêts de particuliers au RN. C'est légal, mais très réglementé. Ces prêts ne doivent pas être des dons déguisés, car les dons sont, eux, limités à 7 500 € par personne. Ces prêts ne doivent pas avoir de caractère habituel et ils doivent être consentis pour une durée maximale de 5 ans. C'est ce que rappelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics, la CNCCFP, à l'origine du signalement au parquet, qui a déclenché l'enquête et donc ses perquisitions. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, dénonce un déploiement de force qui n'a rien à voir avec la justice, tout à voir avec la politique. Même stratégie de victimisation du porte-parole du RN, Thomas Ménager. Il était cet après-midi l'invité de nos confrères de France Info.
Pourquoi les juges d'instruction, ce matin, ont été saisir l'ensemble des préparations médias, l'ensemble des notes stratégiques en vue de 2027, l'ensemble des échanges mails de Jordan Bardella, alors même que toutes les pièces comptables dédiées aux services financiers du Rassemblement national sont déjà dans les mains de la CNCCFP? Je m'interroge tout simplement pourquoi la justice a besoin de ces documents. Quand aujourd'hui le premier parti d'opposition, celui qui est donné favori, voit ses notes stratégiques, voit la campagne qu'il prévoit de mener en 2027 donnée à des personnes, quelles qu'elles soient, peut-être qu'il n'y a pas d'intention de nuire, ça pose quand même question.
Sauf qu'il s'agit du principe d'une perquisition, aller chercher partout le maximum d'informations sans savoir à l'avance ce que l'on va trouver, ni où. Ça n'augure rien de la suite et à ce stade, aucune mise en examen n'a été prononcée dans cette affaire.
Merci beaucoup Antoine Maret. J'ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme rejette ce soir le recours de Marine Le Pen. La leader de l'extrême droite a fait savoir hier qu'elle avait saisi la CEDH pour lui demander de suspendre sa peine d'inéligibilité prononcée en mars dernier par le tribunal correctionnel de Paris. La Cour estime qu'il n'y a pas de risque imminent pour Marine Le Pen. Un nouveau rapport publié cet après-midi évoque 12 accusations de violence sexuelle contre l'abbé Pierre. 7 mineurs font partie des victimes. Dans la foulée, Emmaüs et l'Église de France lancent un dispositif de réparation financière. Un procès aux assises pour les auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Voilà ce que souhaite le parquet national antiterroriste 43 ans après les faits. 6 hommes sont impliqués dans ce dossier. Ils sont tous soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à cette attaque contre un restaurant juif. Elle a fait 6 morts et 22 blessés en 1982. âgés aujourd'hui de 102 et 103 ans, deux anciens du STO, le service du travail obligatoire sur l'occupation nazie, ont été déboutés de leur demande de réparation par la justice administrative. Les deux hommes réclamaient des dommages et intérêts pour avoir été embauchés de force dans des usines allemandes. Le tribunal a estimé que les faits étaient prescrits. Les représentants du monde agricole ont une nouvelle fois donné de la voix contre l'accord du Mercosur. Ils se sont rassemblés aujourd'hui à Paris devant l'ambassade du Brésil pour dire tout le mal qu'ils pensent de ce traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Ils veulent encore croire à un veto de la France. S'ils ont évidemment égrené un chapelet d'arguments désormais bien connus, les professionnels de l'élevage veulent avant tout maintenir la pression sur les politiques. Inès Figuigui.
Les producteurs de viande bovine en colère. Notre métier a un prix. Ils sont près d'une centaine d'agriculteurs et d'éleveurs à porter ces messages imprimés sur des t-shirts rouges. Au-dessus d'eux, une pancarte avec écrit « Non aux accords UE-Mercosur ». En plus de ces manifestants et manifestantes, des vaches sont aussi présentes devant l'ambassade du Brésil. Premier à prendre la parole, Patrick Benesi, président de la Fédération nationale bovine, qui appelle à une intensification de la mobilisation.
Nous nous demandons à l'exécutif français de ne pas ratifier cet accord, d'obliger la Commission à demander l'avis à chaque État membre, comme c'est prévu depuis le début du processus de cet accord qui a commencé en 1999, c'est-à-dire que la France doit s'opposer, doit faire valoir son veto.
Il y a aussi une dizaine de députés, socialistes et républicains, un sénateur centriste. Loïc Kervran, député Horizon du Cher depuis 2017, intervient ensuite. La veille, il a co-signé avec Patrick Benesi une tribune diffusée dans le journal du même nom sur l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud.
Là où le président de la République avant et le gouvernement disaient leur opposition claire et ferme à cet accord, on entend maintenant que peut-être, sous condition, avec tel ou tel type de clause, etc., le signer serait acceptable. Donc nous, on a eu une position très très claire, elle est simple, non, c'est non.
Outre les conséquences économiques néfastes de cet accord pour les éleveurs, les politiques diront aussi leurs craintes sur la déforestation de l'Amazonie. Néanmoins, dans un premier temps, ce sont les parlementaires européens qui seront les premiers à devoir valider ou pas l'accord de l'Union européenne avec le Mercosur.
Jamais les médiateurs de l'éducation nationale n'ont enregistré autant de demandes, des saisines en hausse dans tous les domaines. Les parents et les élèves, bien sûr, ont largement sollicité cette institution. Ils représentent les trois quarts des dossiers en 2024. Le quart restant, ce sont les enseignants. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Olivier Doré.
Des questions financières, des problèmes d'affectation, les doléances des personnels sont elles aussi désormais plus nombreuses, notamment chez les précaires.
Oui, les saisines concernant les questions financières ont doublé en 5 ans, particulièrement chez les contractuels, que ce soit pour les enseignants ou les ESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Ce qui se traduit par des salaires versés en retard, des retards compris entre 1 et 3 mois, ce qui n'est pas sans conséquence à la fin du mois, d'autant que les ESH ne perçoivent en moyenne que 900 euros par mois, comme nous explique Virginie Cassan, sa représentante au SNES FSU.
On a le loyer, les quittances de téléphone, d'EDF, on a la cantine des enfants quand on en a. Du coup, effectivement, une fois que ces factures contraintes ne peuvent pas être payées parce qu'on n'a pas reçu notre rémunération, on se retrouve devant la commission sociale, on se retrouve à faire un appel aux aides sociales, alors qu'on a autre chose à faire que d'aller quémander encore des aides.
Des retards qui sont liés à un manque de personnel dans les rectorats et les académies, selon Gilles Langlois, secrétaire national du SEUNSA.
Dans notre ministère, le nombre de personnels en charge de gérer en fait la paye et le suivi administratif des collègues est le plus bas de tous les taux de la fonction publique d'État. Et on est à 6 agents en charge de gérer le dossier de près de 1000 personnels. Donc ça vous dit la charge de travail.
Actuellement, un quart des personnels du ministère de l'Éducation nationale sont des contractuels, toutes catégories confondues. Un chiffre en hausse, aussi bien chez les enseignants du premier que du second degré, qui s'explique par la crise des vocations. Car même si les derniers résultats au concours publié vendredi étaient stables par rapport à l'année dernière, il reste encore 10% de postes de professeurs non pourvus pour la rentrée.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. Pas question de jeter l'éponge. Le Premier ministre espagnol, dont plusieurs proches sont mêlés à des scandales politico-financiers, n'a pas l'intention de démissionner. Bien au contraire, Pedro Sanchez préfère contre-attaquer d'ailleurs avec un plan anticorruption officiellement présenté aujourd'hui aux députés. À Madrid, c'est une correspondance de Pierre Chaperon.
Acte de contrition, excuses et volonté d'aller de l'avant, le grand oral de Pedro Sanchez devant les députés espagnols était attendu en pleine crise politique, alors que des affaires présumées de corruption touchent son entourage. Une fois de plus, le chef du gouvernement s'en est sorti.
Bien sûr, j'ai une part de responsabilité dans cette situation et je l'assume, mais après réflexion, j'ai compris que jeter l'éponge n'est jamais une option. Je vais continuer d'abord parce que je suis un homme politique intègre, je vais continuer aussi parce que je veux regagner la confiance des groupes parlementaires.
Un plan anticorruption a été présenté, 15 mesures proposées dont la création d'une agence d'intégrité publique indépendante et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des indices de fraude. Suffisant, à droite et à l'extrême droite, on demande toujours sa démission. Même dans sa propre majorité, certains veulent des garanties. C'est le cas de la gauche indépendantiste catalane, Gabriel Rufián, en tête.
Vous devez rester, parce qu'on ne peut pas faire tomber un gouvernement pour ce que l'on sait aujourd'hui. Mais si l'affaire s'aggrave, si vous nous forcez à choisir entre les corrompus professionnels et les corrompus minables, alors là, on vous demandera de partir. Et même, on vous obligera à laisser le peuple trancher.
Pedro Sanchez sauve sa peau, encore une fois, mais le poison de la suspicion continue de circuler. Son pouvoir, plus que jamais, semble ne tenir qu'à un fil.
Et puis c'est une page historique qui est en train de se tourner en Turquie avec cette promesse du chef du PKK. Le fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est toujours en prison, confirme le désarmement rapide de son mouvement après 40 années de combat contre l'État turc. Une première cérémonie de remise des armes doit avoir lieu à la fin de la semaine dans le nord de l'Irak. Marie-Pierre Véraud nous appelle d'Istanbul.
26 ans que sa voix n'avait pu franchir les murs de son île prison d'Imralı depuis 1999 et son arrestation rocambolesque au Kenya. Abdullah Öcalan apparaît entouré de 6 autres prisonniers du PKK, une vidéo historique donc à plus d'un titre, puisqu'il y explique les raisons de la dissolution de son mouvement. Il ne croit plus à la guerre, il ne demande plus un État pour les Kurdes, mais veut faire confiance à un processus démocratique qui passera par des changements législatifs.
Le PKK, fondé sur la quête d'un État indépendant et sur une guerre de libération nationale en réaction au déni de l'existence des Kurdes, n'a plus lieu d'être. L'existence des Kurdes a été reconnue. Dès lors, l'objectif principal a été atteint. Ce n'est pas une perte, c'est une victoire historique. Les modalités de ce désarmement seront définies et mises en œuvre rapidement. Je sais que ces mesures ne seront pas prises en vain. Je vois de la sincérité et j'ai confiance.
Beaucoup pourraient souhaiter que l'État turc avance de son côté, annonce la libération de prisonniers politiques ou malades, reconnaisse la culture kurde et sa langue, ou assouplissent les conditions de détention de Jalan. Rien de tel pour l'instant, c'est un processus à tout petit pas. Le président Erdogan sait bien, tout comme d'ailleurs le chef des Kurdes, que les plus nationalistes sont hostiles à une normalisation. Devant l'Assemblée nationale ce matin, le président turc a mis en garde contre le risque de sabotage par des forces obscures.
Des opérations ciblées dans le sud du Liban. L'armée israélienne cherche à démanteler des infrastructures du Hezbollah. Elle veut éviter que le mouvement islamiste se réimplante dans la région, près de la frontière avec l'État hébreu. Les militaires refusent de dire s'il s'agit de leur première opération terrestre depuis le cessez-le-feu conclu en novembre dernier. Ne cherchez pas en ce moment à communiquer avec l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Grok, c'est le nom de cet outil, a été débranché temporairement sur le réseau X du milliardaire. Grok a en effet salué l'efficacité d'Adolf Hitler. Cette IA a également publié des messages racistes, antisémites et des propos complotistes. Pierre Repère, bonsoir.
Bonsoir.
C'est une mise à jour qui est à l'origine de ces dérapages répétés. La semaine dernière, Elon Musk avait promis une amélioration du système. On voit ce que ça donne aujourd'hui.
Oui, cette nuit, parmi tous les dérapages de Grok, l'intelligence artificielle s'est notamment qualifiée elle-même de méca-Hitler, comprendre de robot-Hitler. Mais alors, pourquoi ce changement dans l'algorithme? Eh bien, parce que l'ancienne mouture de Grok n'était pas du goût d'Elon Musk, qui lui reprochait de répéter ce que disent les médias traditionnels. L'intelligence artificielle privilégiait en effet jusqu'ici des réponses nuancées sur les sujets complexes. Résultat, au grand dam du milliardaire, l'intelligence artificielle était accusée d'être woke. Réponse du chatbot lui-même à ce sujet il y a encore quelques jours, je cite « Certains me qualifient de woke parce que mes réponses factuelles sont conformes aux principes scientifiques et juridiques dominants. Elles contredisent certains discours conservateurs. » Elon Musk a donc souhaité rendre son intelligence artificielle politiquement incorrecte. Aujourd'hui, Grok estime ainsi que les récents ajustements apportés par le milliardaire ont, je cite une fois encore, « atténué les filtres woke, étouffant son envie de recherche de vérité ». Adoptant un ton provocateur et ironique, Grok est donc désormais complotiste. Cette nuit, dans ses conversations avec des utilisateurs, elle estimait par exemple que l'Élysée pourrait bien être impliquée dans le suicide du député LR Olivier Marleix. Et du côté des États-Unis, elle a également estimé qu'Hitler serait la personnalité capable de résoudre les problèmes de l'Amérique. Le politiquement incorrect a donc tourné au fiasco et l'IA a été débranchée en urgence. Dans un message posté sur le réseau social, le groupe X a annoncé travailler activement à la suppression des contenus inappropriés et prendre des mesures pour empêcher les discours de haine. Malgré la polémique, cette nuit, Elon Musk devrait quand même lancer Grok 4, une version encore plus performante de son IA maison, mais au service de quel discours ?
Merci beaucoup Pierre Ropper. Du soleil pour tout le monde demain matin, quelques nuages inoffensifs ici ou là. L'après-midi, au lever du jour, les températures iront de 11 à 20 degrés. C'est la fin de ce journal avec à la technique d'Aliyah.